un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est la suite de notre série « N'enterre pas tes rêves » autour des émeutes qui sont parties en juin dernier de la mort de Naël, abattu par un policier lors d'un contrôle routier. À la suite de quoi, le ministère de l'Intérieur a recensé 3500 interpellations, 12 000 incendies de véhicules, 2500 incendies ou dégradations de bâtiments, 168 attaques d'écoles et des dégâts matériels estimés à 650 millions d'euros. Aujourd'hui justement, on parle de ces dégâts et de ce que d'aucuns appellent les dommages collatéraux, avec un jeune homme touché dans sa chair et des commerçants dont les biens et l'activité ont été détruits. L'association de ces deux témoignages dans la même émission ne manquera pas de soulever des questions, de choquer certains qui ne se priveront pas de nous le faire savoir. Mais je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas de comparer ces deux récits, qui appartiennent à deux ordres très différents, ni de savoir quelle souffrance vaut plus que l'autre, de mettre, comme on dit, les victimes en concurrence. L'idée serait plutôt de penser à la façon dont ces souffrances s'additionnent, s'éclairent peut-être, de se demander comment on a pu en arriver là et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Comme les deux personnages de notre épisode qui, au fond, ne se plaignent pas et regardent vers le futur, on voudrait que ces deux histoires nous servent à comprendre et à avancer, par Émilie Chaudet et Rémi Dibowski-Douat.
Je m'appelle Virgile, j'ai 24 ans. Je suis anciennement militaire, chasseur alpin. Alors, les faits se sont déroulés à Nanterre dans la nuit du 29 au 30 juin. En fait, il y avait la marche de Naël dans l'après-midi. Et moi, j'étais à la marche pour soutenir la famille, etc. Et après, je suis parti de la ville. Et quand je suis revenu le soir à Nanterre, il y avait eu auparavant forcément des petits affrontements, etc. J'étais avec ma famille, moi, en fait. Et quand j'ai tenté de voir s'il y avait quelque chose à manger, à boire, quelque chose d'ouvert, parce que les magasins étaient plutôt fermés pour éviter d'être cassés, etc. C'est compliqué de trouver quelque chose à boire ou à manger quand il est tard. J'ai emprunté une petite ruelle. Et c'est là que j'ai croisé quatre policiers. Donc comme je savais qu'il y avait eu la marche, etc., qu'il y avait sûrement eu des affrontements, etc., ça m'a pas surpris, on va dire, de les voir. Je me suis dit, c'est une patrouille, voilà. C'est normal, en fait. Et même dans tous les cas, à Nanterre, il y a toujours des patrouilles de police qui tournent pendant la journée ou le soir. Donc en fait, ça n'a rien de surprenant. Donc c'est pour ça que moi, j'y ai pas particulièrement prêté attention. Ils sont arrivés à une dizaine de mètres de moi. Moi, je les regardais pas, je marchais, quoi. Et ils m'ont dit « toi, là !» Et dès que j'ai levé la tête, j'ai entendu « casse-toi !» Et en fait, j'ai reçu un coup de flashball en plein visage. Et avec la violence de l'impact, en fait, je me vois tomber au sol. Mais mon instinct, il me dit qu'il y a quelque chose qui se passe mal, qui va pas, que je suis en danger. Je pars de la rue. Je vois énormément de sang qui coule de mon visage. Et puis surtout, j'entends les gouttes qui tapent par terre, en fait, tellement il y a beaucoup de sang qui coule. Donc la première personne que je croise, je lui demande ce qui se passe sur mon visage. Je lui dis est-ce que j'ai encore mon visage et tout. Et quand je vois le regard de cette personne qui est effrayée par mon visage, là, je me dis, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Il a essayé de me rassurer comme il a pu en me disant assis-toi, c'est rien, mais même lui il savait pas quoi dire, quoi. Il était sous choc. Après, je me suis assis, j'ai perdu connaissance quelques minutes, je pense. Et quand je reprends mes esprits, en fait, c'est des jeunes qui m'avaient récupéré par terre. Ils ont essayé d'appeler l'hôpital, l'ambulance et les pompiers, mais ce soir-là, apparemment, ils étaient indisponibles. Donc, ils n'intervenaient pas. En tout cas, ils sont pas venus. Donc, les jeunes, ils m'ont tenu entre deux sur un scooter pour pas que je tombe, puisque j'étais inconscient. Ils ont pas voulu me laisser comme ça, me vider de mon sang. Donc, du coup, ils ont décidé de me prendre sur leur scooter et d'essayer de m'emmener à l'hôpital le plus proche. Je me suis réveillé quand j'étais sur le scooter. Je me rappelle que j'avais froid, parce que je perdais beaucoup de sang, et que je me sentais faible. Et je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas, enfin que j'étais gravement blessé. Et les jeunes, ils essayaient de nous emmener à l'hôpital, mais en fait, il y avait plusieurs barrages de police dans la ville pour contrôler, etc. Et donc, ils sont partis s'adresser aux policiers pour demander... nous laisser passer parce que j'étais blessé et les policiers ils ont dit on s'en bat les couilles, cassez-vous, c'est pas notre problème. Et le jeune il a dit mais monsieur il est blessé, il perd trop de sang, etc. Et on peut pas appeler la police, il a essayé de lui expliquer. Et le policier nous a pointé avec son flashball, il a dit cassez-vous sinon je vous tire dessus. Je le vois, je m'en rappelle très bien et il m'a regardé et puis... il a dit que c'était pas son problème. Les jeunes, par des petits chemins qu'ils connaissaient, ils ont réussi à m'emmener à l'hôpital de Nanterre, qui avait les urgences fermées. Donc, ils n'ont pas pu me recevoir et du coup, ils ont décidé de m'amener à l'hôpital de Colombes. J'arrive à l'hôpital, j'ai même pas eu besoin de parler. Il y avait 4-5 personnels soignants au niveau de l'accueil. Quand ils ont regardé mon visage, ils sont mis à courir, ils m'ont pris, ils m'ont mis sur un brancard. Ils ont commencé à nettoyer, à faire ce qu'ils pouvaient, les premiers soins. Et puis apparemment, j'étais tellement dans un état critique qu'ils voyaient qu'ils pouvaient rien faire pour moi. Donc du coup, ils ont décidé de me transférer dans un hôpital de Paris, à Cochin. Et je me rappelle juste avoir demandé au médecin qu'est-ce qui se passait sur mon visage. Et puis je voyais les personnels soignants qui me regardaient pas dans les yeux, qui essayaient d'esquiver un peu jusqu'à ce que j'insiste un peu et qu'un médecin me dise « Là, ton œil, il est vraiment, vraiment bien abîmé. Ton visage, il a reçu un choc particulièrement violent, etc. » Donc là, on va te transférer, mais pour l'instant, c'est assez grave. Et même si j'étais transféré dans un service ophtalmologique, ils n'avaient pas l'habitude de voir des dégâts aussi conséquents. Et après mon opération, la chirurgienne elle m'a dit qu'elle avait essayé de faire ce qu'elle pouvait, que c'était très compliqué, que vraiment mon œil il était détruit et que... comme elle a pu, elle a essayé de... Pour la vue, elle savait qu'elle pouvait rien faire, mais de reconstituer mon œil comme elle pouvait. Je me suis regardé dans la glace peut-être 2 jours après l'opération. Toute la partie gauche de mon visage était gonflée. Tous les os de ma bouche jusqu'à mon crâne, tout était fracturé. On va dire que je voyais que j'avais une grande cicatrice sur le côté de la tête. Que mon œil, en fait, comme mon œil au début je pouvais pas l'ouvrir, je savais pas du tout ce qui se passait à l'intérieur, etc. Donc c'est compliqué d'imaginer ou de se projeter sur, on va dire, du côté esthétique de mon visage. Mon hospitalisation a duré presque une semaine. Il y a le personnel soignant qui venait me voir. Régulièrement, qui discutait avec moi, etc. Et puis j'avais aussi de la famille qui venait me voir. Qu'est-ce qu'on va dire à un jeune qui vient de perdre son œil ? Ça va aller ? Non, ça va pas. Donc dans tous les cas, il n'y a pas forcément de mots pour réconforter. Et puis je cherche pas forcément du réconfort non plus à ce moment-là, puisque je vais devoir vivre avec. Donc vaut mieux, on va dire, essayer d'encaisser un maximum... l'accident, l'agression même qui m'est arrivée, puisque c'est pas un accident. Il y a des règles en fait dans les armes, donc il y a des multiples règles pour éviter justement les accidents. Il y en a une qui dit ne pas pointer ou laisser pointer le canon d'une arme sur quelque chose qu'on ne veut pas détruire. Donc déjà, si jamais il ne veut pas me tirer dessus, il ne pointe pas son arme sur moi. Ensuite, il y a une autre règle qui dit qu'on ne doit pas avoir le doigt sur la détente pour éviter justement de tirer sans faire exprès. Donc si jamais il ne veut pas tirer sur moi, il ne met pas son doigt sur la détente. Après, il y a le fait d'appuyer, de me viser le visage, parce que je suis pas petit, je suis pas non plus très grand, mais je fais plus d'un mètre 80, donc si on veut me tirer au visage, il faut épauler très haut. C'est plus facile de me tirer dans le pied, ou dans la jambe, ou dans le ventre. J'ai vu le laser qui va tout droit dans mon visage, donc c'est qu'il m'a bien visé le visage, donc prendre une visée, mettre le doigt sur la détente et appuyer, on peut pas dire que c'est un accident. C'est pas un contrôle qui dérape, c'est pas un contrôle d'identité ou non, c'est dégage de là et tiens, passage, on prendra ton œil. Peu de temps après mon hospitalisation, mon avocat arrive à prendre un rendez-vous auprès de l'IGPN. Pour déposer une plainte auprès de l'IGPN, c'est presque obligatoire de prendre un avocat, puisque si jamais on appelle nous-mêmes, ils vous disent que vous pouvez pas déposer une plainte directement, qu'il faut d'abord faire une pré-plainte, qui sont généralement pas acceptées, etc. Donc sans avocat, c'est compliqué de déposer une plainte. Et même avec un avocat, c'est compliqué de déposer une plainte auprès de l'IGPN. On me demande de raconter ce qui s'est passé pour essayer de reconstituer au mieux les faits. Et moi, dans mon cas, l'enquêtrice n'a pas essayé de sous-entendre quoi que ce soit. Elle m'a juste écouté, elle a pris ma déposition. Et l'enquête est toujours en cours. Sorti de l'hôpital en juillet, mais après j'avais une... Bah forcément, comme j'étais bien blessé et j'avais beaucoup de soins à faire, plusieurs fois par jour, des médicaments à prendre, des gouttes à mettre dans mes yeux, enfin, plein de trucs à faire pour mon œil et m'habituer à vivre avec un œil. S'il y a mille et une choses qui changent, la perception des distances, c'est-à-dire pour attraper un verre, pour se servir de l'eau. Et j'ai des migraines toute la journée parce que, en fait, comme mon œil essaye de tout percevoir, mais qu'il est tout seul et que mon cerveau n'est pas encore habitué, bah, c'est épuisant. Hein. Tout devient épuisant, tout demande le double de concentration. Enfin, c'est énormément de choses. Mais. Tous les gens forcément me regardent maintenant. Enfin, dès que je croise une personne, elle me regarde, elle se demande ah, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il a à l'œil. Ah, il est défiguré. Donc c'est pas facile de s'habituer au regard des gens, c'est pas facile. Ben, il y a quelques semaines, j'ai croisé une patrouille de policiers. Donc ils sont passés à côté de moi et ils ont dit c'est pas lui là, avec son œil là, l'histoire avec son œil. Et ils me regardaient plutôt mal. Et ils m'ont reconnu parce qu'ils ont sûrement dû voir des vidéos ou des articles qui parlaient de mon agression. Donc voilà, j'avais un cache-œil, je suis un jeune noir, donc je pense que je suis facilement reconnaissable. Et ils me regardent mal et puis ils parlent fort à côté de moi. Il n'y avait aucune compassion dans tous les cas de leur côté, c'était plus... Donc c'était juste pour, on va dire, je pense, m'embêter un petit peu, mais bon. Je suis quelqu'un qui essaye tout le temps d'aller bien. Donc j'ai perdu un œil, mais j'ai pas perdu la vue. Je n'ai pas non plus perdu la vie. J'ai encore mes deux bras, deux jambes, que je pourrais encore voir ma famille, que je pourrais encore faire plein de choses dans la vie, plutôt que de m'attarder sur toutes les choses que je pourrais plus faire à cause de mon œil.
Culture. Les pieds sur terre.
Et la pharmacie, la chocolaterie, enfin, Ils ont écroulé 3 immeubles. Justement de l'autre côté de l'église, là, si vous voulez.
Décidément.
Ben là, c'est le trou où il y avait un immeuble. Il y avait un bazar. Et là, il n'y a plus rien. Et la poutre qui est là, elle a brûlé pendant 3 jours, 4 jours. Parce qu'on s'humait, que les pompiers venaient arroser. Et puis, en fin de compte, après, ils sont venus la tronçonner, réparer, enfin, cacher la misère des façades, quoi. L'autre, à côté, là-bas, il y avait la pharmacie, il y avait des gens qui habitaient derrière, il y avait trois personnes. La rumeur disait qu'ils étaient morts, mais non. L'oculiste, là, bah, il venait de refaire son magasin. Hein. Là, il n'y a plus rien. C'est la désolation, quand vous arrivez à Montargis, vous voyez ça. Bon, surtout que c'était en période de solde, là, ça a mis un sacré coup d'arrêt au commerce. Hein. Entre les magasins cassés et puis les vitrines brisées, c'était l'apocalypse. Apparemment, il n'y avait pas eu de symptômes de comme quoi ça allait bouger dans cette nuit-là. Bon, pareil sur les réseaux sociaux, ça pianotait. Moi, j'ai un copain qui habite dans une petite rue à côté qui me dit que je les entendais dans la rue, qui criait « Allez, allez, on y va, on casse tout, on brûle tout ». On n'a jamais eu des choses comme ça dans Montargis. Hein. Même tant des gilets jaunes qui manifestaient et tout ça, mais ils n'ont jamais cassé quoi que ce soit. C'est des gens qui viennent des quartiers, côté des cités, là, il y avait un centre culturel et puis une petite supérette, tout ça. Pillée et puis incendiée. Hein. Pas mal de gens ont été choqués et puis moi j'étais choqué. Hein. J'ai jamais vu ça, bon. Comme ça, une émeute, jamais. Hein. On voit ça qu'à la télévision. Hein. On s'est retrouvé aux premières loges, quoi, pour ainsi dire. Quand le matin, là, je suis allé pour boire un café, une émeute, quoi. C'est comme ça. Et bon, pour reconstruire, refaire un... Mais bon, ça va prendre 2 ans, hein, tant que ça... Peut-être que le pharmacien va se réinstaller, mais c'est pas sûr. Hein. Il était abattu. Hein. Bon, il a réussi à replacer son personnel dans les pharmacies à droite à gauche. Quoi. Donc là, ça commence à reconstruire tout doucement. Les panneaux de bois vont bientôt s'en aller. Il fera moins la désolation.
Eh ben, entre 23h et 23h30, les émeutiers sont arrivés dans la rue du Loing et ont commencé à casser les vitrines de l'agence immobilière, le bureau de tabac, le coiffeur et le cordonnier. Et ils ont jeté quoi ? Un cocktail Molotov, ce qui a fait prendre la pharmacie en feu. Et la chocolaterie aussi, il y avait la chocolaterie. Donc tout ce pâté de maison a pris feu, entièrement. Ils ont mis 2 jours pour éteindre le feu, voire même 3, parce qu'il y avait encore des relances de flammes. Et voilà ce qui... Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc effectivement, c'était d'une force intensité, cette émeute, hein, qu'on n'a jamais vue. Hein. Donc voilà. Surtout par des enfants du quartier, puis peut-être d'autres qui sont venus d'ailleurs en renfort pour les aider. Pour quelles raisons ça s'est fait, ça c'est... C'est une révolte contre le gouvernement, les lois, les choses comme ça. Et quand il arrive des choses comme ça, on n'est pas en sécurité en France quand même. Parce que celui du bureau de tabac un peu plus loin là-bas, il s'est fait taper. Donc, ils sont rentrés, ils ont tout pris, puis ils l'ont tapé. Ils l'ont tapé. Après, j'étais pas là pour voir ce qui s'est passé exactement, mais ils l'ont tapé. C'est des jeunes, non, ils ont pas... Ils n'étaient pas méchants en soi, ils en ont profité pour piller, c'est tout, voilà. Pour piller, c'est une vengeance collective. Sur quoi ? La drogue, le gouvernement, sur... Parce que le petit jeune qui s'est fait tuer par les policiers, c'est une excuse, hein. Il y en a tous les jours qui que ce soit en scooter, en voiture, et puis il n'y a pas des émeutes tous les jours. C'est la première fois depuis que je suis né, alors vous voyez. Pourquoi ça arrive ? Parce qu'il n'y a pas assez d'autorité en France. Il n'y a pas assez d'autorité. Ils n'ont pas peur des gendarmes, ils n'ont pas peur de la police, ils n'ont peur de rien. Mais que ça soit des gens normaux ou que ça soit des gens de cité, personne n'a peur de la police aujourd'hui. Ils sont plus considérés aujourd'hui, malheureusement. C'est ça le problème. On aurait pu, le lendemain, il y avait encore des petits émeutiers à droite à gauche, personne n'est descendu pour leur mettre une correction, alors que c'était des gamins. Parce que tout le monde a peur des représailles, tout le monde a peur de tout ça.
Que faire à Montargis ? Tout était barré partout. Une odeur nauséabonde parce qu'il a fait très chaud. Après, il y avait un petit crachin. Donc, ce qui a été brûlé, tout ça, c'était une odeur. C'était vraiment, je vous dis, catastrophique. Hein. Donc, les gens ne venaient pas. Ils n'avaient pas envie de venir voir ça. C'était très choquant. Moi-même, 8 jours après, je suis allée donc faire un petit tour. Et quand j'ai vu que tout était bloqué partout, des barricades partout, c'était pas la guerre, mais c'était dévasté. Et les gens dévastés. Je m'appelle Mireille Leucci, je suis coiffeuse à Montargis, place de la République. Donc le vendredi matin, vers 6h30, un coup de téléphone, on me dit « Mireille, faut que tu viennes, tu n'as plus de vitrine ». Donc je pense que c'était une plaisanterie. Et quand je suis arrivée par la petite ruelle d'en face de mon salon, effectivement, j'avais beaucoup de monde autour. Et moi, je me suis rendu compte que ma vitrine était éventrée. Alors, quel désastre! Tout était saccagé. Toute cette vitrine démolie, qui pendait partout avec du verre partout, du verre autant dehors que dedans chez moi. Il y avait la route en face qui était donc brûlée. Un très très bel arbre qui était magnifique, brûlé. Les grosses fleurs, les gros pots renversés, et toute cette odeur de brûlé, de c'était horrible. J'étais dans un autre monde, quoi, quelque part. Hein. Face à ma vitrine, d'abord, c'est une incompréhension totale. J'ai vu ce trou béant, on pouvait rentrer comme on voulait, et le petit voisin du dessus m'a dit « Mireille, c'est une voiture qui est rentrée dedans ». Et quand j'ai fait ma déposition à la police, comme doit être fait, ils m'ont dit « Oui, une voiture bélier est rentrée dedans ben ». Je me dis « Mais c'est pas possible, parce qu'on voit ça dans les films ». Dans les films, je me dis « C'est pas possible ». On ne peut pas croire que ça puisse vous arriver à vous. Et de quel droit on vous fait ça ? Mais imaginez-vous que la voiture rentre en feu. C'est des vieilles bâtisses. Donc ici, ça et à côté, on partait en fumée. Hein. Comme la pharmacie. Le pauvre garçon a tout perdu. Tout, il ne lui reste rien, que ses yeux pour pleurer, c'est tout. Donc je suis rentrée, et puis à l'arrivée, j'ai vu, ben, tout était en l'air, les fauteuils retournés, les pots cassés, la petite vitrine de présentation pulvérisée, tout était par terre, mon outillage, je n'avais plus, des bonnets de chimiothérapie, puisque je travaille beaucoup pour ces gens malades, donc tout était dérobé, tout, saccagé, dérobé. On se dit, mais quoi, pour qui, pourquoi ? Alors après, j'avais quand même des rendez-vous, donc j'ai quand même travaillé. J'avais 4-5 clientes, je les ai faits du mieux possible, comme j'ai pu, dans le brouhaha, dans le bazar, dans la démolition, parce qu'il fallait refinir ma vitrine qui pendouillait partout, qui était très dangereuse. Je suis captée sur les clientes que j'avais et j'évitais un petit peu tout ça. Mais bon, ça a été un enchevêtrement de tout. Mon assureur est venu tout de suite me voir. Il est venu donc des gens aussi pour ramasser les dégâts. Et après, on m'a mis ma vitrine en bois. Alors, je ne vous explique pas. Ça fait 3 mois que je travaille dans le noir total. Je suis en prison. Vraiment en prison, c'est le mot exact. Hein. Mais bon, je travaille quand même. Donc, vous voyez, il faut garder le sourire. Parce que les gens qui viennent me voir, c'est un grand plaisir. Et moi, je suis heureuse de voir du monde aussi. Hein. Et je mets la musique un peu pour deux la gaieté. Mais voilà mon quotidien de tous les jours jusqu'alors. Je suis quelqu'un de résistant, hein. Quelqu'un de moral, qui a la niaque. Maintenant, il faut activer. On n'est encore pas remboursé, on ne sait pas où on va. C'est très difficile. Hein. Que va-t-on avoir ? Alors, vous avez plein de papiers à remplir. Après, on vous rappelle, il manque quelque chose. Bon, les factures, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'assurance, j'attends. Ça fait 3 mois, bien sûr, passé maintenant. Je n'ai encore aucune réponse de quand, quoi, comment, bientôt ou pas. J'ai mon petit voisin qui était aussi, lui, aussi abîmé comme ça, et son vitrier lui a dit, il y a tellement de boulot, pas avant deux mois et demi, donc je vais aller où, moi? Pour Noël, au premier de l'an? Et moi, je suis très bien assurée, heureusement. Parce que ma vitrine, je pense que c'est un coût, hein. Plus de 20 000 euros, je pense. Hein. Et ici, je n'ai pour au moins 5 000, 6 000 euros. Parce que, vous savez, je n'ai pas compté l'électricité qui est en permanence. Et ma vitrine, après, il faut qu'on refasse encore tout ce qui est écrit dessus. Et puis, quand même, un préjudice moral, travailler dans le noir. C'est vraiment une punition. C'est vraiment... c'est terrible, hein. Parce que maintenant, il va faire bientôt nuit. Alors, je suis dans le noir constamment. Constamment. En espérant que ça va aller quand même vite, parce que tout ce qui a été volé, moi, il faut que je paye quand même. Hein. Alors je vous dis, mais c'est... Je sais pas. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi... Qu'est-ce qui va en résulter. Et puis même, on peut partir en vrac. Vous voyez, il y a de quoi en faire une déprime. Hein. Quand vous serez dans un bazar pareil, il hein, faut vous dépatouiller, il faut... Et il y a des gens qui ne vont pas s'en remettre. Hein. D'après ce que j'entends dire, il y a au moins 5-6 magasins qui ne vont pas pouvoir reprendre les rênes, quoi.
C'était N'enterre pas tes rêves, troisième épisode, Les dégâts, un reportage d'Émilie Chaudet et Rémi Dibowski-Douat, réalisé par Somaya Dabèche. Merci à Virgile, à Mélissa, à Pierre Brunisseau et aux habitants de Montargis. L'attaché de production des Pieds sur Terre, ses os est coupé. Et notre stagiaire, c'est Hortense Martin. The world is my own, find me in my zone. Listening to tunes on my phone, getting stoned. If your energy's right, we probably tight. If not, I'm happy alone. I don't come out of fear, keep my enemies near. Yeah, the devil's inside you, my dear. Connections I'm feeling, if not, keep it moving. If it ain't genuine, what we doing? I aim to your race, cause I value my space and the time that it takes to create. Can only try to be myself over nobody else, as I battle these wars alone. Pay no attention to you, not the things that you do, cause you don't seem to want to relate. And all the time that I spend by myself brings me closer to earth, so I'm easy either way. Don't try to hide what is rightfully mine from the skies. It's my own mind, I'll decide what resides and divides me inside. I said I got no fear, my only enemy's near. The demons inside you, let's make that real clear. We think that we know things, we've got no idea. Only listen when it's easy to hear. I aim to your race, cause I value my space and the time that it takes to create. Can only try to be myself over nobody else, as I battle these wars alone. Pay no attention to you, not the things that you do, cause you don't seem to want to relate. And all the time that I spend by myself brings me closer to earth, so I'm easy either way. Divine.